Les podcasts de l'UA. Bonjour et bienvenue sur le podcast PICT, penser, traduire et représenter les corps, dire l'intime.
Nous sommes Ludivine Bouton-Kelly et Agatha Moringue, maîtresse de conférence à l'Université d'Angers.
Chaque mois, nous interrogeons des chercheuses et chercheurs, des traducteurs et traductrices, ainsi que des artistes, afin d'analyser de manière transversale les représentations complexes des corps et de l'intime dans les arts et la culture populaire.
À travers le prisme de la traduction et de l'étude des représentations, nous parlerons poésie, théâtre, peinture et bande dessinée. Nous sommes aujourd'hui au 4 à Angers où nous avons le plaisir de rencontrer Sarah Simili, artiste circassienne et étudiante en master études sur le genre à l'Université d'Angers. Elle est en résidence de création pendant 2 semaines avec sa compagnie Courant de Cirque dans le cadre du mois du genre. Ensemble, nous reviendrons sur son projet de recherche-création fluide qui interroge les stéréotypes genrés dans les arts du cirque et nous questionnerons la place des corps dans cet art.
Je m'appelle Sarah Simili, je vais sur mes 40 ans cette année. Je viens de Suisse et je suis artiste de cirque, directrice d'une compagnie. Et du coup, on est ici pour parler de mon projet fluide. Je réfléchis d'où c'est parti en premier, mais... déjà, je suis étudiante à l'Université d'Angers en études genre, en M2. Je finis mon M2 cette année. Et pourquoi m'être lancée dans ces études? C'est que le corps m'a toujours questionnée, en fait, tout le long de ma carrière de cirque. Parce que, sans le savoir, j'ai eu beaucoup de remarques sexistes, en fait, sur mon corps, qui n'était pas assez mince, qui n'était pas assez dynamique, que j'étais pas assez... souple et tout ça, et du coup ça m'a vraiment freinée en fait dans ma carrière sur mon agré en fait de cirque et le trapèze, et je me suis comme interdite en fait d'aller dans une école pro et tout ça, parce que voilà, on m'avait toujours dénigrée en fait sur mon corps. Et c'est en découvrant en fait le féminisme que j'ai appris, enfin j'ai su reconnaître en fait que c'était des remarques sexistes. Et aussi tout le long de ma carrière il y a eu d'autres freins qui sont arrivés, des politiques qui m'ont dit vous avez l'âge de ma fille, je vais vous parler comme à ma fille, plein de remarques comme ça où je sentais que j'étais freinée dans ma carrière aussi d'autrice de cirque, de metteuse en scène, comme je m'étais pas autorisée à être sur scène, du coup je me suis retrouvée dans l'écriture et la mise en scène, ce que je m'épanouis complètement maintenant, mais c'est vrai que voilà, il y a un moment donné dans ma jeunesse où j'ai quand même dû faire un petit deuil de pas être sur scène. J'ai découvert le féminisme et ça m'est resté longtemps en fait il y a des études genre, ça a l'air chouette, j'aimerais bien pouvoir approfondir aussi pour avoir des outils de défense quand justement il y a des remarques comme ça qui arrivent, de mieux pouvoir les identifier, avoir des stratégies, etc. Mais avec le travail et tout ça, j'ai jamais pu avoir le temps en fait de le faire. Et Covid est arrivé, c'était juste le bon moment en fait. C'est-à-dire que tout allait s'arrêter et soit je déprimais à la maison, soit je me lançais un challenge que j'allais pouvoir faire à distance. Et comme l'Université d'Angers proposait un master genre à distance, j'ai sauté dessus et je suis rentrée là-dedans. Et je suis partie sur un premier travail de mémoire en M1 qui justement analysait les freins aux carrières chez les artistes de cirque suisse. Avec une étude plutôt sur le secteur professionnel, de où sont les femmes circassiennes en Suisse, quels sont justement les freins à leur carrière, de la formation à la professionnalisation, à la conciliation vie privée, vie professionnelle, etc. Et à la fin de ce premier master, j'avais vraiment envie de questionner les esthétiques. Et je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir combiner en fait ce que je faisais au plateau et mes recherches scientifiques. Et là, c'est une de mes amies, Marion Guyez, qui est aussi chercheuse sur le cirque et artiste, qui m'a dit « Ah, mais pourquoi tu ne te lancerais pas dans une recherche-création ?» Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais voilà, elle m'a dit « Ah, ben, renseigne-toi un petit peu et tout, mais je pense que pour ton projet, ça serait chouette. » Et j'ai un peu prospecté, qu'est-ce que ça voulait dire, et ça a été vraiment la révélation, en fait. De dire, ah oui, en fait, ça a fait complètement sens dans mon parcours de pouvoir lier les deux. Et j'ai proposé au master de pouvoir le faire, parce que comme c'est pluridisciplinaire, voilà, il y avait une ouverture, mais je savais pas si artistiquement, enfin, ils avaient jamais porté une recherche-création, donc du coup, mais ça a été super bien accepté, et notamment par ma directrice de mémoire. Tout s'est fait après en parallèle, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie que ça finisse par une production d'un vrai spectacle, en fait, que ça reste pas juste en laboratoire, mais ça puisse se finaliser avec une production qui tourne. J'ai fait d'abord, en fait, toutes les démarches de production, d'aller rechercher des partenaires dans un théâtre suisse qui nous suit, de rechercher des fonds, et puis tout en écrivant un peu le pitch du spectacle, sur quoi j'allais travailler, déjà amener la recherche, en fait, avec des références théoriques et tout, mais pas trop, parce que pour pas faire peur au secteur artistique, c'est toujours le truc, c'est que pour l'instant, c'est quand même assez séparé. Et puis, il ne faut pas trop dire qu'on fait de la recherche du côté artistique, puis pas trop qu'on fait de l'artistique du côté de la recherche. Quoique moi, de ce côté-là, ça a été. Et ce qui m'intéressait, en fait, de travailler dans les esthétiques, c'est vraiment le corps, en fait, le corps féminin, de comment il est présenté au plateau, qu'est-ce qu'il raconte, parce qu'on est encore, même dans le cirque contemporain, avec des stéréotypes et des clichés qui sont bien présents, en fait, au niveau du cirque. Les disciplines sont encore très genrées. D'un côté, les agrès de suspension aérien qui sont plutôt féminins, le tissu aérien notamment. Et puis de l'autre côté, tout ce qui est trampoline, acrobatie, tout ce qui prend de la place, tout ce qui est dynamique, en force, c'est plutôt du côté masculin. Et du coup, c'était de réfléchir, en fait, de comment déconstruire ça. Je dis pas que je vais révolutionner, c'est juste que j'essaie de conscientiser, en fait, de ce que je montre au plateau et ce que je montre avec les corps. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir plusieurs générations d'artistes pour que différents corps dialoguent, et aussi sur cette transmission, en fait, les transmissions de codes qu'on se transmet d'une génération à l'autre, et aussi comment la jeune génération peut se les réapproprier et du coup en faire autre chose. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de travailler avec cinq générations différentes. Et sinon, au niveau de l'agré-cirque, j'ai choisi justement faire dialoguer deux disciplines qui sont aux extrémités du continuum masculin-féminin. Donc, à la fois le tissu aérien et l'acrobatie. Et de se réapproprier, en fait, le tissu aérien avec d'autres codes que des corps érotisés, que la douceur, la souplesse, etc. Et de pas utiliser ces tissus que sur de la suspension aérienne, mais d'aller les travailler au sol et travailler la matière, parce que le tissu, c'est aussi une matière féminine, en fait. Moi, j'avais l'image des lavandières qui arrivait, ces espaces, en fait, où les femmes se retrouvaient et avaient la parole qui se libérait et tout ça. Donc voilà, ça m'intéressait d'aller travailler cette matière-là et de la déformer, d'avoir beaucoup, beaucoup de matière. Donc pas seulement un seul tissu aérien, mais d'en avoir 30. Ce qui fait qu'on peut détourner le tissu, on peut créer d'autres images, créer des métaphores, etc. Donc ça, c'est un peu déjà ce que j'avais expérimenté dans d'autres créations, c'est-à-dire pour détourner l'agré-cirque, de le démultiplier. Donc c'est la première fois que je fais sur les tissus, mais la dernière création, j'avais 150 massues de jonglerie sur scène, qui n'étaient pas du tout utilisées pour jongler. Donc voilà. Et voilà, de travailler ce tissu. Et qu'est-ce que je voulais dire encore ? Et après, je sais pas si je peux peut-être le lien avec le concept de male gaze, female gaze, ou qu'est-ce que...
Oui, on se demandait aussi, mais c'est peut-être un petit peu général comme question, on se demandait dans quelle mesure les outils du féminisme permettent de repenser le cirque, et inversement, comment le cirque, dans sa théorie et sa pratique, met un petit peu en balancement les outils du féminisme.
Bonne question.
Une vaste question.
Ouais, une vaste question.
Mais peut-être comment toi, en tout cas, tu t'es approprié ces outils pour soit modifier ta réflexion ou ta pratique du cirque et inversement.
Ouais. Y a plusieurs axes, mais je pense que là, du coup, je vais faire le lien avec ma recherche parce que je me suis intéressée plutôt aux études cinématographiques. D'abord, avec Laura Mulvey et justement sa théorisation du male gaze, qui voilà ce regard masculin en fait qui érotise les corps des femmes au cinéma, et il y a tout après la sexy lamp, enfin tous ces voilà ces petits tests, le test de Bechdel et tout ça. En me disant, déjà, qu'est-ce que c'est ce regard masculin par rapport à ce qui est montré sur les écrans, mais aussi par rapport au public, en fait, aux spectateurs et spectatrices. Et comment on peut se réapproprier ces outils à la fois dans les arts vivants et dans le cirque. Et justement, il y a Iris Bray qui a repris et qui a, en fait, complété avec le female gaze, où elle a... théoriser en fait justement qu'est-ce que serait le female gaze qui n'est pas en opposition au male gaze mais qui est vraiment un autre regard, et elle a voilà pointé 6 points en fait que pour elle un film et female gaze suit ces 6 points en fait. Donc il y a 3 points qui concernent la partie narrative, et il y a 3 points qui concernent plutôt les techniques de film, en fait, entre les champs contre champs. Et du coup, je me suis fait ma propre liste, en fait, de critères female gaze que j'avais envie de questionner, en fait, sur mon travail. Et du coup, c'était d'avoir une non-mixité choisie, avec des corps féminins au plateau, que des corps féminins au plateau, de parler en fait de l'expérience des corporéités féminines, et puis du côté plus, du coup il n'y a pas vraiment de technique dans les champs contre champs et tout ça, mais du coup de le reprendre aussi dans le processus de création, en fait, de se dire en fait le female gaze c'est ok d'un côté les esthétiques de ce qu'on montre au plateau, mais aussi comment on va aborder le processus de création. Donc j'ai une équipe en non-mixité choisie elles sont toutes sensibilisées au féminisme. On essaie de vraiment travailler de manière horizontale, donc de travailler au niveau des responsabilités et pas de pouvoir, en fait, d'aller déconstruire en fait tout cette notion de hiérarchie, que chacune apporte sa parole pour qu'on puisse après créer une parole collective. Chacune peut amener des idées. On est tous autrices dans ce spectacle, c'est-à-dire que c'est pas juste moi qui écris, mais on écrit toutes, et toutes ont des droits d'auteur-autrice en fait sur le spectacle. On est toutes payées la même chose. Puis de mettre un cadre de bienveillance sur comment on prend la parole, comment on s'écoute, cette notion de consentement aussi, qu'est-ce que j'ai envie de montrer de mon corps au plateau, qu'est-ce que j'ai pas envie, et d'être vraiment sur une écoute. De pas être dans cette image de metteur en scène, plus metteur en scène, mais d'aller dans des impros qui tout d'un coup demandent de se déshabiller, de faire des trucs et tout ça, non, de pas aller là-dedans en fait, et de vraiment de communiquer en fait, et d'interroger ensemble en fait ce qu'on montre au plateau. Et voilà, donc il y a un peu toute l'équipe en fait qui est prise dans cette recherche d'expérimentation, et de voir qu'est-ce que ça fait par rapport aux autres créations qu'elles ont pu faire, et cette création-là, et faire vraiment des allers-retours et d'analyser. Donc voilà comment le féminisme, en tout cas, intervient dans mon travail. Après, j'ai déjà les limites en fait de ça. Enfin, déjà avec ce qu'on a travaillé ces 15 jours, de ce qu'on a testé en fait du male gaze, female gaze, on se retrouve en fait de nouveau dans une binarité qui nous gêne en fait parce que. Donc on s'identifie toutes comme des femmes cis, mais on se définit comme femmes politiquement parce qu'on défend politiquement nos droits. Par contre, cette notion de féminité et masculinité, pour nous, ne veut rien dire en fait. Donc c'est pas les bons termes. Enfin, je sais que c'est un concept female gaze et en plus Iris Bray essaye de le déessentialiser, mais l'utilisation du female gaze ou du regard féminin, je trouve que c'est encore essentialisant et je pense que c'est vraiment ce que je vais questionner tout à l'heure. Par rapport au public, c'est ce qu'on a montré. Est-ce qu'on est dans quelque chose qui essentialise, qui renforce les normes ou non? Voilà. Enfin, c'est.
Et comment on travaille l'entre-deux, du coup, justement? Parce que si vous essayez de, collectivement, de sortir de la binarité, comment est-ce que vous arrivez à travailler l'entre-deux, la porosité?
Déjà, les corps nous aident beaucoup parce que on a des corps de circassienne. Musclé, tonique, dynamique, même si on nous a toujours dit que non, mais en fait, on n'a pas beaucoup eu des espaces où on nous a laissé, en fait, prendre cet espace de, justement, d'acrobatie et tout ça, et le fait d'être en non-mixité, il n'y a pas ce regard masculin qui est dévalorisant, en fait, sur ce qu'on fait. Donc là, voilà, c'est en tout cas ce que j'ai comme retour par rapport à mes interprètes. C'est, en fait, on se sent légitime de faire de l'acrobatie. Et c'est rare, en fait, parce que dès qu'il y a des garçons qui sont là et qui font de l'acro, tout de suite, ils font de toute façon mieux. Et de toute façon, c'est leur, c'est leur discipline et on ne s'autorise pas. Donc ouais, je pense que vraiment, les corps aident. Et après, c'est... ce qu'on est parti, c'était vraiment d'aller chercher à l'extrême, justement, ce truc de féminin, de tissu, d'image que ça peut évoquer dans les imaginaires. Et après, comment il y a une bascule et comment c'est réapproprié et utilisé autrement. C'est un peu ce qu'on essaye de faire. Je ne dis pas qu'on a réussi. Je sais pas que, il y a encore des choses, mais c'est un peu ça, en fait. C'est d'aller vraiment montrer des images très... je dirais pas stéréotypé parce que c'est déjà la manière d'utiliser les tissus, ils sont déjà transgressifs par rapport à comment il est utilisé dans les spectacles de cirque, mais c'est quand même de montrer des images bien féminines pour après tordre en fait. Ouais.
Est-ce que le fait d'avoir décidé d'être une troupe en non-mixité choisie permet en fait de se défaire de ces stéréotypes et de refaire en se dégageant de ce regard-là, est-ce que ça participe quand même beaucoup ? Ou est-ce que c'est un élément, un postulat qui finalement a été aussi une limite à un moment donné ?
Je pense que ça a beaucoup aidé d'être... justement, comme je disais avant, de s'autoriser des choses qu'on ne s'autorise pas, de pouvoir... montrer les corps sans qu'ils soient érotisés, c'est-à-dire que on sait que dans la salle on cherche pas ça, donc du coup on va pas là-dedans. Même si y a du travail sur le vêtement, du coup vu qu'on utilise le costume et on part dans des robes et on peut partir dans quelque chose de féminin, mais il est pour soi-même en fait et pas pour un regard masculin qu'il faut séduire. Donc ça a été quand même intéressant. Je disais avant, la légitimité d'aller dans les acrobaties, d'aller dans la force, d'aller dans la violence aussi. Ça nous a bien aidés. Et après, pour la petite anecdote, on a une règle à enchaîner ces deux semaines, quoi. Enfin, et du coup, ça a fait aussi que, on comprend en fait les énergies différentes. Voilà, il y a une ou deux personnes de l'équipe qui font de l'endométriose, donc du coup, il faut s'adapter. Et ça, c'est ouvert en fait. Genre, on peut librement dire, en fait, là, ça va pas. Va, prends ton temps et tout ça. Et c'est ça fait partie en fait du process. Donc voilà. J'espère que de plus en plus les compagnies et les hommes en fait sont sensibilisés en fait à tout ça. Mais je sais que là c'était voilà, c'est plus libre quoi en fait de parler de ces choses-là. Ouais.
Puis de reconnaître aussi leurs influences sur la création.
Ouais, carrément. Ouais. On a senti les énergies changer quoi. C'est intéressant. Et après, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des corps d'âge différents. Voilà, on a Mara qui a 24 ans et Macha qui en a bientôt 60. Et de comment on travaille le corps vieillissant d'une acrobate circassienne de cirque traditionnel qui est née dans une famille de cirque vraiment voilà, c'est la fille d'un célèbre clown et tout donc et de toutes les histoires qu'elle nous raconte hallucinantes quoi enfin, vraiment c'est complètement une autre génération et là il y a vraiment la transmission qui arrive quoi et Mara est la plus jeune qui est du coup une autre génération qui est quand même baignée dans une vague féministe avec les jeunes artistes sont beaucoup plus conscientes en fait des limites et tout des dénonciations aussi on a hashtag balance ton cirque qui est arrivé c'est on se dit ah ouais quand j'avais son âge, j'aurais bien aimé en fait avoir déjà des modèles d'artistes féministes et tout.
Et est-ce que ces questions-là, ça s'est vu dans les corps au plateau, dans la manière de bouger aussi, de voir en fait des circassiennes plus âgées qui s'emparaient de ces thèmes-là féministes de manière différente ou pas du tout?
Oui, carrément. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Après, avec Macha, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de care, en fait, avec, du coup, les artistes plus jeunes. C'était chou parce que Macha nous a dit, mais elle a fait du film mou, c'est sa discipline. Et en fait, elle a toute sa vie, elle a fait du film mou. Elle avait son numéro qu'elle a décliné en plusieurs spectacles et tout ça. Mais elle disait, mais en fait... j'ai jamais pu, on m'a jamais laissé être dans un collectif d'acrobatie, on m'a jamais laissé faire en fait. Et là, elle se fait porter, on lui fait faire de l'acrobatie et tout, et c'est très beau en fait. Et du coup, les corps jeunes la soutiennent en fait pour qu'elle soit dans une sensation d'acrobate sans que. Je sais pas comment expliquer, mais qu'elle soit vraiment soutenue dans son mouvement pour qu'elle ait les sensations sans forcément faire un salto, quoi. Et ça, c'est très beau. Ça, c'est chouette qu'il y a eu ce care. Et en fait, mais de sortir quand même de ça, parce que Macha, elle en voit, quoi. Enfin, franchement, elle a de l'énergie et tout, elle est incroyable. Et elle est aussi. À donner la partition aux trois, quoi. Donc, il n'y a pas... Elle a la force dans son corps, quoi, qui est là. Et tu sens avec le poids des années, en fait, aussi.
Et du coup, vous êtes toutes dans un décloisonnement des pratiques qui étaient vos pratiques initiales, ou en tout cas vos pratiques de prédilection dans le cirque. Comment justement, tournent les pratiques que vous avez pu avoir et finalement, les différentes compétences que vous avez acquises, même si j'imagine que c'est très complémentaire.
À part Macha qui faisait du fil, les trois autres sont artistes aériennes. Donc, ma sœur et Karina en tissu et Mara de la corde lisse. Donc, du coup, elles étaient dans une pratique de suspension. Et c'était pour moi l'idée d'aller chercher en fait des artistes qui font des aériens pour les mettre au sol. Et de voilà qu'elles puissent aborder en fait leur technique aérienne d'une autre manière. Et après, en collaboration artistique, donc hors du plateau avec moi, je travaille avec Julie Tavert et Constance Bugnon, qui sont acrobates, acrodanseuses, et qui viennent justement écrire les corps de manière acrobatique. Et ça, c'est un grand soutien pour moi, parce que je viens aussi de la technique aérienne. Et moi, je fais de la mise en scène. Et du coup, écrire les corps, j'ai un peu plus de peine. Donc du coup, je m'appuie vraiment sur Constance et Julie pour écrire le corps acrobate. Et voilà. Et voilà, avec aussi des artistes qui sont passés, en fait, par... voilà, Julie est acrodanseuse. Elle a fait sa formation au Centre national des arts du cirque de Chalon. Mais on l'a jamais vraiment considéré sa discipline. Enfin, acrodance, en plus, il y a 10 ans, 15 ans derrière, c'était vraiment... est-ce qu'elle fait vraiment du cirque? Donc, c'était complètement dévalorisé. Et maintenant qu'il y a des garçons qui font de l'acrodance, ça va mieux. Mais voilà, donc, on a toute une histoire avec notre discipline et notre formation et tout. Et, ouais.
Et écrire les corps, ça veut dire aussi inventer un nouveau vocabulaire, peut-être?
Ouais. Oui, oui, ben, je pense que c'est un peu... l'essence du cirque, d'inventer d'un vocabulaire, parce qu'on est chaque fois en train de travailler sur un agrès, et du coup on écrit sur l'agrès, on écrit le corps sur l'agrès, et après on écrit dans un spectacle. Donc il y a un peu plusieurs couches et ça, qui prennent du temps. Et là, déjà que les corps se rencontrent, et de travailler sur le collectif et justement de comment on se porte, c'est tout. Enfin, il y a tout un langage commun à créer, en fait. Comment je peux te porter, où est-ce que je peux mettre mon poids, où est-ce que je peux pas mettre mon poids, comment... Enfin, voilà, il y a un vrai dialogue qui doit se mettre en place. Et après, le collectif. Et j'ai perdu le fil de ma pensée.
Sur le nouveau, cette question aussi d'un nouveau vocabulaire.
Ouais, du nouveau vocabulaire, donc les corps entre eux. Et puis après, le fait d'avoir la masse de tissu, c'est pas un agrès de cirque en soi. Donc il faut inventer en fait que faire avec cet agrès. Et après, il y a toute cette question du cirque, virtuosité, performance, qu'elle place la performance A dans le spectacle. Pour moi, elle n'est pas au centre, donc c'est aussi transgressif par rapport au cirque. Et on m'a plusieurs fois posé la question, mais t'es sûr que tu veux continuer à t'appeler cirque? Enfin, voilà quoi. Ça, oui, enfin, je suis circassienne, j'écris avec mes outils qui sont cirque, quoi. Mais c'est vrai que, comme on a pu dire à Fia Ménard, tout ça, c'est... est-ce que c'est vraiment du cirque? Donc, ouais. Donc, voilà. La place de la performance, c'est important aussi. Ouais.
Est-ce que c'est important, d'un point de vue terminologique, de trancher entre cirque et performance?
On est dans une période où tout est en train de se flouter. Après, faut savoir qu'en Suisse, on a 30 ans de retard par rapport à la reconnaissance des arts du cirque. Donc il y a quand même une volonté en fait de d'abord être reconnu comme cirque avant de pouvoir jouer avec les, même si on utilise le théâtre, la danse, la performance. Donc on est un peu là quoi. C'est marrant parce que je discutais avec mes élèves de Rony et je leur faisais une sensibilisation au genre et on discutait ensemble de tout le vocabulaire de catégories LGBTQI+, etc. Et pour elle et eux, qui ont 17-18 ans, ça voulait plus rien dire de se catégoriser. Ils trouvaient ça limite scandaleux qu'on n'arrive pas à dépasser ça. Et du coup, je dis oui, moi qui ai une, deux générations en plus que vous, justement, politiquement, j'ai besoin de m'identifier comme femme, lesbienne, pour que j'existe, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec le cirque. C'est genre, peut-être il faut justement pouvoir s'identifier comme cirque et de pouvoir être reconnu là-dedans. Parce que je fais vraiment le parallèle, parce que du coup, c'est d'effacer les discriminations et tout ça, si on commence à tout flouter et tout. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de parallèle avec ça. Mais en France, comme le cirque a été reconnu beaucoup plus tôt que nous, peut-être ça, vous êtes déjà un step plus loin. Mais ouais, En même temps, c'est quand même encore une petite enveloppe, j'ai l'impression, le cirque. Ouais.
Est-ce que garder le même nom aussi, ça permet peut-être d'avoir des attentes sur le cirque qui sont déjouées, qui sont déroutées, et donc d'être plus efficace, en fait, dans ouais. Dans le ouais. détournement.
Carrément. Carrément, je trouve. Ça, c'est sûr. Et parce que j'ai pas répondu à la deuxième partie de ta question sur qu'est-ce que le cirque peut faire aux féministes.
Exactement. Parce qu'en fait, en t'écoutant réfléchir et conceptualiser la pratique, la recherche-création, ça donne l'impression que tu t'empares à la fois du cirque comme discipline, comme média, et du féminisme un petit peu de la même manière en termes de méthodologie de travail et de réflexion. Mais peut-être que je me trompe sur... Et donc, du coup, je me demandais, étant donné que tu t'en empares à la fois comme des médias, des outils, des supports de réflexion et des façons de changer aussi le corps en tant que tel. Ben peut-être que ça, voilà, ça nous permet de rebondir sur cette idée de ce que le cirque fait au féminisme, qui est souvent le pendant qu'on regarde un petit peu moins.
Je sais pas si je réponds à la question. Je vais essayer. Tu me diras si. Parce que on est sur un autre projet en parallèle de ma recherche création avec la compagnie Del, qui est une compagnie toulousaine aussi militante engagée, et on fait une collaboration ensemble pour réfléchir sur les transmissions dans les arts du cirque. Parce qu'il y a beaucoup d'espaces de pouvoir en fait dans les transmissions. Je l'ai vu dans les freins en carrière, toutes les violences, les agressions et tout ça. C'est vraiment voilà, il y en a beaucoup. Et du coup, on est parti d'un postulat complètement utopiste, de dire, en fait, si on change les transmissions dans les arts du cirque et qu'on amène de la bienveillance, forcément, ça va impliquer sur les esthétiques. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir les mêmes images sur les plateaux. Et j'ai l'impression qu'avec ma recherche-création, je questionne, si on change les esthétiques sur les plateaux, du coup, on change le regard des spectateurs-spectatrices et on change la société. Donc, c'était un peu ça. C'est complètement... Mais l'idée, c'est de pouvoir amener d'autres imaginaires. Et voilà, je dirais que... Et moi, j'utilise le cirque pour ça. Parce que je me remets enfant, adolescente, complètement en recherche d'identité, de mon orientation sexuelle. Et en fait, moi, je vivais dans une petite ville en Suisse complètement conservatrice, sans possibilité de m'imaginer que quelque chose d'autre que l'hétérosexualité était possible. Et du coup, je me dis, peut-être que si j'avais eu des modèles et tout, j'aurais pu me raccrocher à quelque chose et me construire. Et je me dis, peut-être que c'est aussi quelque chose que je peux faire avec le cirque, en fait. Y a beaucoup d'enfants qui viennent voir le cirque. Et c'est en tout cas, dans l'imaginaire collectif, le cirque est tout public, familial. Donc, est-ce que moi, je peux mettre ma petite graine, en fait, et de pouvoir peut-être essayer de changer un peu les imaginaires. Voilà.
En tout cas, changer les modèles de représentation, ça, c'est vraiment une manière efficace de transgresser et aussi de proposer d'autres modèles de société et de réflexion.
Oui, puis cette idée du tout public aussi, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où on a un chapiteau, on appelle ça toujours un cirque et on peut être étonné, dérouté, comme tu le disais, par ce qui va s'y passer. Mm. Mais le fait d'accueillir tout le monde, est-ce que c'est important aussi le fait de rester tout public, ce côté les enfants, c'est cette idée du cirque qu'on a où on emmène les enfants, pas plus pour voir des animaux, est-ce que ça, c'est important dans votre vision à toutes?
C'est important. On est beaucoup... active dans des médiations, on travaille avec tout public, justement dans la transmission de la technique de cirque, mais aussi dans la création, dont on fait des spectacles, et on travaille avec vraiment tout public. On travaille avec des familles, on travaille avec des jeunes en rupture, ça fait partie intégrante de la compagnie, en fait, de comment on est aussi sur le terrain. On s'implante dans un quartier, on fait du travail de quartier, voilà, ça c'est... Et c'est une question, en fait, que je m'étais posée pour la création, là. Est-ce que je le mets pas moins de 12 ans et du coup que je peux aller vraiment sur des images un peu crues, en fait, et je sais pas encore, en fait. je ne sais pas encore, mais le fait de toute façon d'avoir une enfant sur le plateau, ça va quand même donner une ligne que je ne vais pas m'autoriser à dépasser. Ou qu'elle ne soit pas sur le plateau à des moments. Voilà. Enfin, c'est parce qu'on revient du spectacle d'Adi et du coup, j'ai... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu. Enfin, il est au... OK, maintenant, on a été voir hier sur le cyberharcèlement. Enfin, bref. Du coup, il y a une enfant de 13 ans qui joue et ça me pose beaucoup de questions, en fait, sur comment on met en scène ce corps d'enfant. Voilà, je fais mon propre, mon propre questionnement là-dessus. Et oui, donc du coup, ben, les cinq générations, cet enfant est présente. On parle de son corps aussi. Et de conscientiser de ben, qu'est-ce qu'on montre de ce corps avec les autres corps. Parce que pour moi, en tout cas, dans ma musique interne, on parle d'une seule et même personne à des périodes différentes. Enfin, c'est un seul et même corps qui dialogue. Donc voilà.
Et ton corps, il prend quelle place dans ce processus à la fois créatif et de recherche?
C'est compliqué.
C'est pas obligé de répondre à la question.
Non, non, je réponds volontiers. Il n'y a pas de souci. Mais c'est compliqué. C'est marrant parce que quand je ne suis pas en création, je vais courir, je fais du sport et tout ça. Et dès que je rentre en création, je ne suis plus capable en fait, de m'accorder ces temps-là en fait, pour prendre soin de mon corps. Et ben, c'est vraiment un questionnement que je suis en train de faire. Hein, donc, c'est, ça... Et je me demande pourquoi, en fait. J'arrive pas, en fait, à juste... Pourtant, on commence à 10h, j'aurai le temps, en fait. Je sais pas si c'est parce que je suis trop épuisée cérébralement, en fait, de devoir produire, de... Mais ça me ferait très du bien, en fait. Et du coup, je suis toujours voilà, en retrait par rapport à ce qui se passe au plateau, parce que voilà, j'ai besoin d'avoir cet imaginaire qui se construit, d'avoir des idées qui arrivent, de sortir, rentrer, en fait, pour aller voilà, pour chercher des idées, pour leur donner, en fait, plus d'indications aux interprètes. J'ai besoin d'être habillée comme si je faisais partie des artistes, en fait. D'ailleurs, je suis en training. Mais voilà, mais je suis pas à l'aise avec mon corps quand je suis en création. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Il y a un truc. Ouais.
Et pour parler du corps de manière plus métaphorique, peut-être ouais. Le corps du cirque itinérant. Est-ce que ça, cet aspect du chapiteau qui va dans les villes et qui voilà. Côté itinérant du cirque, c'est un trait que vous souhaitez garder ou pas pour ce spectacle? Ou est-ce que finalement le fait est que vous allez diffuser ce spectacle dans des salles et dans des salles qui sont de fait immobiles? Ou est-ce que c'est aussi une question que vous avez?
Bah, on est plutôt parti sur une production plutôt comme danse ou comme théâtre avec une boîte noire et de pouvoir installer le cirque à l'intérieur des boîtes noires, c'est aussi une manière de pousser les portes. Mm-hmm. Parce que aussi beau que ce soit le chapiteau, les roulottes et tout, c'est une logistique absolument incroyable. C'est rude pour les corps. Il faut monter, il faut démonter, il faut avoir financièrement, c'est d'autres budgets.
Oui, c'est un vrai corps.
C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est des corps ensemble qui font corps. C'est de vivre ensemble non-stop. C'est vraiment la vie de cirque, voilà, des cirques plutôt traditionnels, même si maintenant le chapiteau revient, en fait. Mais pour moi, je me suis assez détachée de ça. J'ai besoin que tout le monde soit confortable et tout, qu'on se voit de manière ponctuelle pour que chacune puisse rentrer chez elle. Mais par contre, voilà, quand on est deux semaines ensemble, on est deux semaines ensemble. Et ça fait partie aussi du process, c'est-à-dire qu'on se nourrit dans les moments informels. Le fait d'être toutes dans le même appart et de partager d'autres choses, on en a d'autres discussions qui arrivent, qui nourrissent la suite. Donc voilà, dans ces deux semaines-là, on est vraiment comme une famille, mais après, pas sur une itinérance. Et voilà, parce que... Bah, pour moi, il y a aussi beaucoup de problématiques autres que la logistique et tout ça dans cet entre-soi, en fait. Voilà, hein, on parlait de violence sexuelle, c'est vraiment le terreau propice à tout le monde est ami, tout le monde couche avec tout le monde fait la fête avec tout le monde, et du coup, il y a des dérapages, mais ça entre guillemets. Et voilà, et tout ça, pour moi, il y a quelque chose qui doit s'assainir en fait avant qu'on puisse reprendre. Voilà, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Hein. Il y a toutes les bonnes choses en fait, c'est toutes les questions que maintenant sortent dans le milieu du cirque, c'est comment on prend en charge la maternité et la parentalité, c'est-à-dire tous, enfin comment on prend soin du corps féminin enceint et comment on l'accompagne en fait sur tous les voilà quoi, la physiologie en fait de tout ça pour reprendre après une activité et après de comment s'occuper des enfants pour que à la fois papa et maman ou maman ou papa puissent continuer à travailler. Et ça, c'est des questions qu'on n'avait pas en fait dans le cirque traditionnel. C'est ce que disait Macha qui a eu sa fille en pleine tournée, c'est qu'en fait tout le monde s'occupait des enfants et tout. Donc il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Mais voilà, pour moi en tout cas, c'était pas de la ligne que je voulais aller. Mais par contre, j'ai beaucoup d'artistes qui travaillent sur ce projet, qui ont des enfants. Et c'est aussi pour moi de réfléchir de comment, en fait, on accueille tout le corps de la compagnie. Voilà, ça, c'est des vraies questions, par contre. Ouais.
Et sur le confort, je pense aux efforts qui ont été faits à l'Opéra de Paris quand Benjamin Millepied était arrivé sur les parquets qui étaient en fait très durs et il a donc fait changer tous les parquets pour les danseurs et les danseuses. Est-ce qu'il y a des choses aussi très pratiques comme ça qui ont évolué dans le cirque ou que toi tu aimerais voir évoluer par rapport au confort et à l'environnement dans lequel vous travaillez tout simplement ?
Alors, les artistes de cirque, c'est des vrais bourrins, vraiment. Enfin, je pense que là, il y a vraiment un héritage, qu'on parlait du chapiteau avant, c'est tous les artistes montent, démontent les gradins, les chapiteaux et tout, et ça, c'est resté le travail. Voilà, c'est pas genre comme à la gymnastique où t'as tous les protocoles d'acrobatie et tout ça. Là, c'est à un moment donné, t'y vas, tu lances un peu. Donc, c'est très violent, en fait, je trouve, le cirque pour le corps. Et ce qui a évolué maintenant, c'est qu'il y a un espèce d'apport de pilates, de tai chi, de yoga, enfin tout un peu les techniques un peu alternatives pour prendre soin de son corps. Et ça c'est seulement depuis quelques années en fait où les artistes vont chercher pour se faire du bien, de penser leur corps de manière intelligente et de pas faire de la pépé, de la préparation physique, genre je fais 50 abdos mais en fait je suis jongleur donc ça sert à rien, il faut que je muscle autre chose. Enfin, il y a Agathe Dumont qui travaille justement aux Beaux-Arts et qui est chercheuse aussi sur la danse et sur le cirque, qui a fait tout un travail sur la santé dans la danse et dans le cirque par rapport au corps, qui est vraiment, je vous conseille, enfin, elle vient ce soir d'ailleurs. Et voilà, de comment en fait on préserve son corps de manière intelligente, en ayant d'autres apports. Ouais, pour moi, c'est ça qui a beaucoup changé, je trouve. Et là, je vois mes interprètes. Elle me demande en fait trois quarts d'heure, une heure. Enfin, elle me demande plus parce que maintenant c'est intégré. Mais avant de pouvoir vraiment rentrer dans le travail, et on prend de nouveau trois quarts d'heure pour l'étirement à la fin de la journée. Et ça, c'est compris dans les séances. Enfin, c'est compris dans le travail en fait. On doit vraiment se dire, ok, ben oui. Enfin, il faut que vous preniez soin parce que ça, ouais, c'est violent. C'est violent pour le corps. Et voilà, je sais que moi, je dois avoir une attention particulière aussi parce que quand on va dans des impros très physiques, elles ont tendance à pas s'écouter et à se mettre en danger parce que le cirque, c'est le danger. Et il faut aussi pouvoir gérer, en fait, ça. Alors, elles sont hyper consciencieuses, mais voilà, faut juste pas dépasser cette limite.
Et du coup, à la fois dans la recherche-création et dans la pratique, puisque le cirque, le féminisme se mêle, quelle est la place des concepts liés à l'intime, à l'extime, dans la pratique et dans la recherche-création ?
Dans ce que je fais.
Oui, tout à fait.
Tout ce qui est analyse des entretiens autobiographiques et enfin biographiques, autobiographiques et enfin analyse sociologique m'aide bien en fait parce que là du coup j'ai des séries d'entretiens que j'avais prévu de faire pour mon travail de master, mais je les utilise complètement en fait dans ma recherche artistique. Je sais pas si je réponds à ta question, mais
tout à fait.
Ok, donc j'étais partie avec une grille d'entretiens et tout à la socio, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais quand j'ai commencé les entretiens, je les ai juste entendu parler. Je me suis dit, en fait, c'est pas du tout ça que je dois faire. Enfin, vraiment, je les laisse parler, quoi. Ça va être sur les biographies. Donc voilà, et puis en fait, en essayant de comprendre leur parcours et où étaient les freins et où elles en sont, elles, avec leurs stéréotypes et leur identité, leur histoire intime du corps, en fait, ça m'a nourrie artistiquement. Et ça, voilà, et du coup, j'apporte en fait ce que j'analyse dans les entretiens sur le plateau. Et puis, la dernière chose, c'est ce qu'on discutait avant par rapport au dispositif du circulaire et de se rapprocher. Pour moi, c'est d'aller sur l'intime. Ouais. Et voilà. Et après, il y a ma sœur qui est au plateau et qui, elle aussi, cherche sur le cirque. Et elle qui travaille sur le cirque de l'intime. Et voilà. Donc, du coup, on discute aussi pas mal là-dessus.
Nous remercions Sarah Simili ainsi que le service culturel de l'Université d'Angers, en particulier Chloé Langeard et Anne-Laure Guillaume, pour l'organisation de cette rencontre, leur accueil chaleureux et la découverte de fluides.
Merci de nous avoir écoutés et merci à l'Université d'Angers et à l'Académie Pulsar de la région Pays de la Loire pour leur soutien.
Vous pouvez suivre l'actualité du projet PICT sur notre carnet hypothèse. À bientôt.